Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Cinéscopie sur RTF. Une petite interruption d'une semaine indépendante de notre volonté, croyez-le bien. Mais on est de retour en direct. Il est 20h59 à la pendule de RTF. Et c'est donc bien Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film, qui vous attend ce soir jusqu'aux alentours de 22h30. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. On va évidemment vous parler des films que nous avons vus cette semaine, ces derniers jours même. Et puis on vous parlera bien sûr de l'actualité musicale. Alors il y a pas mal de sorties discographiques ces jours-ci. Et tout d'abord Music Box Records, qui, comme ne l'indique pas son nom, est un label français, eh bien, nous propose trois beaux disques. Tout d'abord un disque consacré à Claude Bolling avec trois films. Deux grandes filles dans un pyjama. Alors ça c'est une comédie, comme l'indique son titre d'ailleurs, avec une musique vraiment superbe, assez guirette, prime sautière de Claude Bolling. Et puis un grand classique de Claude Bolling et du cinéma français, Le mur de l'Atlantique, oui, avec Bourvil. Le troisième film représenté sur cette galette est un petit peu plus confidentiel. Il s'appelle Qui, et il y a Maurice René et Romy Schneider quand même dans ce film. Voilà donc un très 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 beau disque pour découvrir l'éclectisme et le talent de Claude Bolling. Alors deuxième disque chez Music Box, celui-ci est consacré à Georges Delerue avec Les Caprices de Marie, Julie Podcole et L'Ingénue. Bon, là aussi un incontournable, mais aussi le Delerue des comédies, parce que c'était aussi, voilà, il a travaillé pas mal avec Philippe de Broca, donc il a beaucoup œuvré dans ce genre. Donc voilà, Les Caprices de Marie, Julie Podcole et L'Ingénue, voilà trois partitions incontournables du grand compositeur français. Et puis une réédition, parce que alors là évidemment les titres dont je viens de vous parler sont inédits sur le support CD, mais là une réédition remasterisée d'une musique de Philippe Sard pour Music Box, un film de Costa Gavras avec Jessica Lange. Et sur le même disque d'ailleurs on retrouve c'est un inédit là, The Matchmaker, là aussi un film inédit sur CD. Voilà, Music Box qui voilà figure un des thèmes les plus beaux composés par Philippe Sard. À mon avis, c'est peut-être un des plus grands thèmes de l'histoire du cinéma. J'avoue qu'à chaque fois que je l'écoute, je suis transporté. Donc je ne peux que vous recommander ces éditions. Et puis le label espagnol Quartet Records nous propose également quelques belles sorties, avec notamment un album consacré à Rizz Ortolani, avec trois films mettant en scène la mafia, trois films sur la mafia. D'ailleurs, l'album s'appelle The Mafia Film Music Collection. Alors donc, ce sont trois BO composés par Rizz Ortolani. La plus importante du lot, c'est The Valaki Papers. Voilà, très très belle partition avec là aussi un très beau thème romantique. Et puis voilà, deux autres films un peu plus confidentiels, dont un film de Damiani. Mais voilà, on peut sans problème se diriger vers ces trois musiques de Rizz Ortolani. Et puis, Stato Interessante, c'est pas facile à dire, Stato Interessante, c'est de l'italien. Et là, c'est une musique de Ennio Morricone. Alors, une musique de la fin des années 70, pas très connue, mais qui mérite quand même le détour, parce que là aussi, voilà, c'est très très beau, hein, c'est le Morricone romantique comme on l'aime. Donc, ouais, ce sont voilà, des albums que je vous recommande chaudement chez Quartet Records. Alors, évidemment, là, il va falloir passer par Internet, parce que ces labels ne sont pas distribués, ou très peu en tout cas. Donc, si vous voulez vous procurer ces albums, vous allez sur le site Quartet Records ou sur celui de Music Box. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire également oui, comme j'allais oublier. Et oui, toujours chez Quartet Records, la réédition d'une autre musique de Rizz Ortolani, Le jour de la colère. Et alors là, ça avait déjà été édité plusieurs fois. C'est un western spaghetti avec Lee Van Cleef dans le rôle principal, Giuliano Gemma également dans ce film, qui est un excellent western spaghetti au passage, et qui bénéficie bien d'une partition vraiment très efficace de Rizz Ortolani, avec un thème vraiment magnifique. Donc ça s'appelle en anglais Day of Anger, et c'est tout, là aussi chez Quartet Records. C'est carrément deux CD deux CD qui représentent l'intégralité de la partition. de Ritz Ortolani. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer notamment les musiques de la Mafia. Il y a notamment la musique de Bandit à Milan, qui est assez intéressant parce que c'est un film de Carlo Lizzani, Bandit à Milan, qui a lancé le genre poliziotesco en Italie. Mais je te passe le micro, Laurent, parce que j'ai un petit chat dans la gorge. C'est un peu gênant.
Alors, puisque on reste dans la musique, bonsoir à tous, eh bien, il y a quelques petites sorties. Alors, tu parlais de Quartet tout à l'heure, mais il y a aussi un autre titre chez Quartet, c'est The Hypocrisy File, de John Barry. Je crois que c'est une réédition, me semble-t-il.
Sauf que c'est un réenregistrement.
Oui. Et donc du coup avec une très très belle pochette au passage et donc ça vaut aussi le détour de ce célèbre film d'espionnage avec Michael Caine et donc musique très je dirais très connue, très célèbre de John Barry, donc pour avoir l'intégrale eh bien, c'est déjà sorti, déjà dispo.
Oui, mais là aussi, c'est un incontournable. Dans un réenregistrement vraiment superbe. Et voilà, il faut vraiment vous procurer ce disque. Puis John Barry, on adore, bien sûr. Et puis, une dernière petite nouveauté discographique. Cette fois-ci, c'est chez Intrada. Alors ça, c'est pour ceux qui aiment le Frankenstein de Mary Shelley, avec l'apparition de ce disque intitulé Frankenstein, The True Story. Alors, en fait, c'est un téléfilm américain des années 70, me semble-t-il, qui avait été mise en musique par Gilles Mellet. Et bon, c'est un très bon compositeur, un peu confidentiel. Et c'est vrai que là, vraiment, les collectionneurs que vous êtes vont s'arracher ce disque, vraiment, parce que c'est quand même une BO très très rare. Ça vient de la télévision, mais quand c'est Gilles Mellet qui écrit, c'est toujours très réussi. Donc voilà, des choses vraiment superbes. Et puis bon, ben voilà. Et puis bon, l'actualité de la musique de film. Ben ce sont aussi des concerts, hein, mon cher Laurent. Alors, la saison des concerts à Radio France, à la Maison de la Radio, est ouverte, on peut déjà réserver. Et cette année, finalement, à la Maison de la Radio, à Paris, eh bien, il y a pas mal de concerts consacrés à la musique de film, avec tout d'abord le 29 janvier, le concert hommage à Georges Delerue, qui s'inscrit d'ailleurs dans une soirée spéciale, remise du prix SACEM à la meilleure musique de film de l'année 2025. Et donc, 2026, pardon. Et donc, ce sera le 29 janvier 2027, tout ça. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et autre concert, avec deux autres concerts assez passionnants. Début mai, ce sera Ennio Morricone, toujours à la Maison de la Radio. Et puis, le 13 ou 14 mai, c'est un concert consacré à Bernard Herrmann. Alors là, très content.
Oui, avec un hommage à Alfred Hitchcock.
Et ben oui.
Donc, il n'y aura peut-être pas que Bernard Herrmann, d'ailleurs.
Ah, ben ça peut être intéressant d'entendre effectivement d'autres compositeurs comme Franz Waxman, John Addison. On est impatients, alors, puisque on ne vous cache pas, on y sera. Non, nous avons nos places, mon cher Laurent. C'était un. Voilà, on ne pouvait pas ne pas y aller.
Non, on sera en pole position si vous voulez nous rencontrer.
Exactement, vous allez à la Maison de la Radio au mois de mai prochain. Et puis voilà, puis dernière nouveauté discographique, et puis je pense que là, c'est un incontournable là aussi, hein, c'est la musique du dernier film de Steven Spielberg, Disclosure D, qui sort ce mercredi. C'est la dernière collaboration en date de Steven Spielberg et de John Williams, puisque c'est à nouveau John Williams qui écrit la musique du film. On peut en écouter deux extraits actuellement sur le net. Et ça s'annonce évidemment très beau comme d'habitude. Et puis voilà. Et puis bon, bah, certainement que ce sera la dernière collaboration entre John Williams et Spielberg, parce que bon, John Williams c'est un âge assez vénérable maintenant.
Oui. Alors à moins que le projet de Steven Spielberg arrive assez vite, mais bon,
Oui, un projet western apparemment.
Il semblerait que voilà, il y a un western peut-être en préparation pour l'instant. Rien n'est moins sûr, mais voilà.
Pourquoi pas,
une petite indiscrétion, on va dire.
Et voilà, exactement. Bon, ben voilà, et puis voilà. Puis bon, alors, sinon, l'actualité du cinéma Limoges, on va vous en parler, bien sûr. Alors moi, là, il y a deux semaines, je suis allé à l'avant-première du film Francesca e Giovanni, un film italien de Ricky Tognazzi. Alors c'est un film qui est consacré au couple formé par Francesca et Giovanni Falcone. Vous savez, les fameux juges anti-mafia qui a été assassiné hein, suite à un attentat. Et donc, le film a été présenté en avant-première avec le distributeur du film qui est venu accompagner son film. Et c'était tout à fait passionnant, parce qu'après, il y a eu un échange avec le public et c'est toujours appréciable. Alors, petit bémol, mais ça concerne pas vraiment le film, ça concerne les conditions de projection au Lido, avec, je dois dire, une remarque du distributeur qui n'a fait que confirmer mes soupçons. Alors cela dit, je vais vous dire, hein, moi je n'accuse personne, voilà, je ne veux pas avoir un procès sur le dos, mais j'ai quand même constaté, quand même déjà depuis un certain temps, que je trouve que l'image est un petit peu plus sombre, un peu plus, c'est comme s'il y avait un voile sur l'image, comme si finalement les vidéoprojecteurs étaient réglés en mode écho. Et le distributeur a fait la remarque à la fin du film que c'est un film... Alors, avant le film, c'est un film très lumineux parce que ça se passe en Sicile. Et à la fin, il dit, oui, c'est bizarre, cette copie, elle est un peu plus sombre que... Bon, il s'attendait à ce que le film ait des couleurs plus éclatantes, que les contrastes soient plus forts, plus... Voilà. Et ce n'était pas le cas, effectivement. Donc... Je m'interroge pourquoi l'image, est-ce que c'est lié peut-être l'ancienneté des vidéoprojecteurs, est-ce qu'ils ont peut-être pas été changés, est-ce qu'ils sont mal réglés, et non. C'est vrai que je m'interroge un petit peu sur le rendu image.
C'est un petit peu étonnant parce que je pense que vu la rénovation du cinéma, on peut penser que les vidéoprojecteurs soient dans la lignée du modèle qui est présent sur les autres grands écrans, c'est-à-dire les modèles Christie. Après, en termes de réglage, là, par contre, c'est peut-être l'inconnu, on va dire.
Donc, c'est vrai que du coup, je me suis...
C'était dans la grande salle ?
C'était dans la salle 2, pour l'avant-première. Et c'est vrai, j'avais déjà remarqué sur certains films, et d'ailleurs, quand je parlais des films projetés au Lido, des fois, j'étais assez critique vis-à-vis de l'image, la trouvant parfois assez terne. Et je me demande si c'est pas en partie lié finalement aux conditions de projection, c'est-à-dire pas forcément lié au film, même si effectivement la photo du film peut ne pas me convenir, ça c'est sûr, mais est-ce que ça joue pas aussi? Et là j'ai trouvé la remarque de ce monsieur assez intéressante et qui va dans le sens de ce que j'avais moi-même remarqué. Donc point d'interrogation. C'est tout ce qu'on peut dire, voilà, effectivement.
Oui,
c'était un petit peu mon coup de gueule. Hein, de temps en temps, on aime bien faire un petit coup de gueule.
Oui,
en début d'émission.
Alors, après, on peut le dire aussi, hein, c'est que aux grands écrans, au centre-ville, il y a des salles où en fait les projecteurs n'ont pas été changés. Particulier des très petites salles, voilà.
Oui, effectivement.
Ça se voit d'ailleurs, hein, la qualité est un petit peu différente par rapport à des... qu'à le dire, des grands écrans.
Oui. En plus, c'est vrai que nous, on ne nous la fait pas parce qu'on va très souvent au cinéma et pas qu'à Limoges, donc on sait très bien de quoi on parle.
Ah oui.
Je pense qu'on sait. Et puis, enfin, on est un peu un maniaque de l'image, hein, mon cher Laurent. Hein. C'est quand on achète nos DVD, on fait attention au mastering, etc. Donc voilà, moi je me dis, il y a quelque chose à faire, quoi, je ne sais pas. Écoutez, à bon entendeur.
En tout cas, le message est passé, je pense.
Bon, voilà. C'est peut-être une question de génération de vidéos proches, tout simplement.
Oui, enfin, cela dit, c'est un petit peu dommage que le distributeur en fasse la remarque.
Oui, exactement.
Enfin, c'est, disons que c'est un peu piquant, quand même.
C'est un peu piquant, et je... voilà, donc c'est un... Voilà, on pose la question. Bien, alors mon cher Laurent, nous allons commencer cette émission en musique, comme d'habitude.
Oui, un grand classique de la musique de film. Peut-être une des meilleures du compositeur en question. Un film qui a été tourné et réalisé en 1987, qui a donné toute la flamboyance au compositeur, même si... avant cela, il avait déjà bien concocté plein de chefs-d'œuvre. Mais là, pour le coup, donc à la distribution, nous avons Eric Stoltz, Gabriel Byrne, Nicolas Cooper, Dexter Fletcher, Deborah Moore, Nicolas Clay, pas Nicolas Ray, hein. Penny Donny, Chris Pitt. Et donc, très belle distribution, on ne va pas tous les citer. Le titre français, c'est Cœur de Lion.
Oui, alors, à ne pas confondre, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Cœur de Lion.
Oui.
Avec Jean-Claude Van Damme, c'est pas le même. Hein.
Ah non, pas du tout. c'est pas la même année déjà.
Oui.
Et puis ça n'a rien à voir, musicalement non plus. Et donc, pour le coup, ce film, alors, le titre original, c'est Lionheart. Signé Jerry Goldsmith, une partition qui a été longtemps excessivement difficile à se procurer parce que c'était à l'époque de l'import. Il fallait passer par un distributeur qui promotionnait. Alors, je ne sais pas s'il promotionnait parce que je pense qu'il ne savait pas réellement les références qu'il distribuait, mais c'était Imai qui distribuait largement le catalogue de chez Varese Sarabande.
Voilà. Oui,
et donc, Lionheart en a fait partie, et bien sûr, forcément, on s'est précipité à l'époque. Et il y avait deux volumes. Et on va écouter le final, je dirais.
Ah, qui est superbe. Hein.
Voilà, du premier volume. Et donc, il y a eu d'autres éditions plus tard, toujours Varese, hein, dans les éditions de luxe, qu'on appelle, hein, cette collection. Mmh. Et donc, où, bien sûr, la bande-son a été remasterisée. Mais ça reste un grand incontournable de la musique de film.
On peut préciser que Lionheart marque la dernière collaboration de Jerry Goldsmith avec Franklin Schaffner, le metteur en scène.
Oui. Peut-être que d'ailleurs ses meilleures bandes originales ont été faites avec la collaboration de Franklin J. Schaffner.
Oui. On pense à Papillon notamment, et à d'autres, Patton, voilà.
Oui, la canonnière du Yangtze.
La canonnière du Yangtze, et puis ces garçons qui venaient du Brésil aussi, qui étaient excellents. Et Lionheart alors raconte un événement réel, c'est la croisade des enfants en 1212. Ils étaient partis libérer la Sainte Sépulture à Jérusalem des mains des infidèles. Et donc, c'est un film sur les croisades. Alors, l'histoire telle qu'elle est racontée dans le film, c'est pas vraiment totalement fidèle à la réalité historique, parce que la croisade des enfants, on va mettre des guillemets quand même, hein. Mais bon, c'était assez intéressant quand même. Bon, il faut bien le dire, c'est quand même pas le meilleur film de Franklin Schaffner. D'ailleurs, il est sorti, mais je crois qu'en France, il n'est pas sorti dans les salles, il est sorti en VHS à l'époque.
Je pense, oui, c'est ce qu'on appelle un direct vidéo.
Voilà. Mais par contre, la musique de Goldsmith, une de ses plus belles, hein, une de ses plus réussies. Hein,
et donc, forcément, les deux orchestrateurs, je dirais, attitrés de Goldsmith, Arthur Morton et Alexander Courage.
Voilà. Ouais. C'est vrai qu'Arthur Morton, c'est le vieux complice de Jerry Goldsmith, et Alexander Courage, qui a aussi orchestré pour John Williams.
Oui.
Voilà, donc une superbe équipe à la musique, et puis une interprétation fougueuse. On écoute Lionheart.
Oui, et donc le dernier titre qui s'intitule Le Roi Richard. Allez, on est parti pour un peu plus de 8 minutes de Lionheart.
La rubrique vidéo, c'est l'actualité du support physique, DVD, Blu-ray, Steelbook. Et c'est donc tout de suite dans Cinéscopie. Nous sommes en direct, je vous le rappelle, jusqu'aux alentours de 22h30. Alors, l'actualité du DVD, voilà, quels sont les films dignes d'intérêt? Voilà, quels sont les films que vous pouvez vous procurer cette semaine? Alors, j'ai fait mon petit tour, hein, je vais vous parler un petit peu plus précisément de certains films. Mais tout d'abord, voilà, j'ai fait mon petit tour à Limoges, dans quelques enseignes, et j'ai repéré donc quelques titres dignes d'intérêt. Alors je vais vous les signaler, mais je n'en dirai pas plus. Peut-être que Laurent d'ailleurs vous en parlera dans quelques instants. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve à Limoges? Qu'est-ce que vous pouvez vraiment vous procurer? Alors tout d'abord, La Ballade de Gregorio Cortez, un film de Robert Young avec Edward James Olmos. Et c'est un film qui vous est proposé par le Studio Canal dans la collection Make My Day, vous savez, la collection de Jean-Baptiste Torré. Donc là, c'est vraiment un film vraiment très intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu sur Limoges également? Eh bien, New York Connection, un film de Robert Butler avec James Brolin, Clive Gorman et Richard Castellano. Un film qui était sorti à l'époque dans les années 70 sous son titre original de Fort Bronx. C'est un film de la fin des années 70. Alors, New York Connection, comme l'indique son titre, c'est un film, c'est un polar, voilà, qui se passe à New York. J'en dis pas plus. On vous en a peut-être déjà parlé d'ailleurs, je me suis en train de me dire. Qu'est-ce qu'on trouve aussi sur Limoges? Eh bien, Zulu, avec Michael Caine. Alors Zulu qui vous est proposé dans vraiment chez Rimini Édition. C'est un grand spectacle épique et qui est l'un des meilleurs rôles de Michael Caine. Donc Zulu est disponible et dans une belle édition. Alors un petit film, enfin en tout cas un film oublié qui vous est proposé par un nouveau label, peut-être que Laurent vous en parlera tout à l'heure, ça s'appelle Le Voleur de Crime. Le Voleur de Crime avec dans les rôles principaux Jean-Louis Trintignant, Robert Hossein et Florinda Bolkan. Un film réalisé d'ailleurs par Nadine Trintignant. Un film qui s'apparente un petit peu au giallo. Il y a un petit côté giallo dans ce film. Et puis un coffret qui va ravir les fans de films d'horreur, La Colline a des yeux. Alors dans ce coffret vous avez les deux premiers films de cette franchise, La Colline a des yeux, réalisés par Wes Craven lui-même. Donc voilà, si vous aimez Wes Craven et le cinéma d'horreur des années 70, La Colline a des yeux, c'est pour vous. Et puis on trouve également actuellement sur Limoges, hein, tout ça c'est des choses que j'ai vues sur Limoges, et bien les films de David Cronenberg, Scanners et Chromosome 3, qui vous sont proposés en 4K, non, en ultra haute définition. Donc ça, il faut vraiment pas passer à côté. Et puis dans les sorties les plus récentes, le film de Christophe Gans, Retour à Silent Hill, qui vient de sortir. Alors on en avait parlé dans l'émission, on avait vu le film, qu'on n'avait pas détesté. Pourtant, bon, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de Christophe Gans bashing à l'occasion de cette sortie, de ce retour à Silent Hill, mais qui a quand même ses mérites esthétiques. Et puis voilà, et puis Christophe Gans... En ce qui me concerne, je trouve que c'est quand même un excellent metteur en scène. Et il a à chaque fois une vision et quelque chose à défendre dans ses films. Donc on peut découvrir ce retour à Silent Hill. Et puis, chez Extra Lucid Film, y a quatre films de Dario Argento qui vous sont proposés et qu'on peut se procurer sur Limoges. Alors, ce sont pas, il faut bien le dire, hein, ce sont pas les meilleurs films de Dario Argento. Tout d'abord, Le Fantôme de l'Opéra avec Asia Argento et Julian Sands. Fantôme de l'Opéra que j'avais vu moi, au cinéma il y a quelques années. C'est vrai que j'avais été quand même assez déçu par cette production. Et c'est quand même bien dommage. Alors le film, on sort quand même chez Extra Lucide dans une belle édition, dans un beau coffret. Réédition toujours chez Extra Lucide de Mother of Tears, le troisième volet de la trilogie initiée par Dario Argento avec Suspiria, et ensuite continuer avec Inferno. Alors ce Mother of Tears, finalement, c'est pas la catastrophe annoncée. C'est pas ouf, hein, faut bien le dire. Mais il y a quand même une photo intéressante, il y a des effets spéciaux qui fonctionnent, le casting est plutôt bien. On est loin de la flamboyance tout de même du Dario Argento des années 70. Et puis Dracula. Alors là, c'est le film le plus problématique de cette salve Dario Argento, parce que ce Dracula qui met en scène quand même Asia Argento, Roger Hauer eh bien, est une daube sans nom, il faut bien le dire, hein. On a l'impression que le film a été tourné par des étudiants en école de cinéma. Enfin, c'est pas péjoratif de ma part, mais ça fait amateur. Ça fait quand même un petit peu amateur. Et c'est dommage parce qu'il y a une belle photographie et voilà, on attendait beaucoup de ce film. Alors, Extra Lucide vous propose Dracula quand même dans ces deux versions, c'est-à-dire la version plate et la version relief. Donc, si vous avez le dispositif pour voir les films en relief, vous pouvez voir le film en Blu-ray haute définition et en relief. Et puis enfin, quatrième film de cette salve, Dario Argento, c'est un documentaire consacré à Dario Argento, ça s'appelle Panico, et c'est tout à fait passionnant là. Donc voilà, disons que sur ces quatre sorties, moi je vous propose plutôt de vous procurer Mother of Tears, et puis ce documentaire, Panico, consacré à Dario Argento. Donc voilà, j'ai fait un petit peu mon marché comme ça à Limoges cette semaine, et puis j'ai vu que ces Blu-ray étaient sortis. Alors cela dit, une sortie, mais je crois que j'en ai déjà parlé, mais je préfère, parce que là c'est quand même un chef-d'œuvre, je préfère comme rappeler ça, c'est la sortie chez Tamassa Film du film de Victor Hérissé, L'Esprit de la Ruche. Film donc de Victor Hérissé avec Anna Torrent et Teresa Gimpera. Un film qui nous transporte dans l'esprit des années 40, deux fillettes transposent dans la réalité l'impression que leur a produite le film Frankenstein. C'est un film qui prend son temps, mais une fois qu'on fait l'effort de rentrer dans cet univers, on est largement récompensé. Pour moi, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. L'Esprit de la Ruche à vous procurer de toute urgence. C'est d'ailleurs Au chat qui fume, eh bien, un deuxième film de Victor Hérissé sort actuellement. Ça s'appelle Le Sud, un film avec Homero Antonucci, Issiar Bolaine, film réalisé en 1982. Et là, Victor Hérissé nous transporte dans l'Espagne des années 50. Une fillette observe sa vie familiale, fascinée par le passé opaque de son père. Donc là aussi, on est à hauteur d'enfant. Et alors, c'est moins un film sur l'enfance que L'Esprit de la Ruche, mais quand même. Et c'est tout à fait passionnant là aussi. Puis en plus, il y a un très beau travail de restauration accompli par Le Chat qui fume sur ce film, Le Sud. Donc là, on a les deux meilleurs films de Victor Hérissé qui arrivent là. Donc il faut vraiment vous les procurer, L'Esprit de la Ruche et Le Sud. Et puis, oui, je voulais en finir quand même. J'avais vu un film quand même intéressant, je voulais vous en parler. C'est un film italien là aussi, alors que j'avais vu en salle. Je ne sais pas si tu l'as vu, Laurent, j'ai un petit doute. Ça s'appelle Fuori, un film de Mario Martone avec Valeria Golino et la superbe Matilda De Angelis. Il faut dire qu'elle est vraiment magnifique. Dans la Rome des années 80, une écrivaine se remémore les rencontres qu'elle a pu faire durant son emprisonnement pour vol dans le plus grand pénitencier pour femmes d'Italie. Voilà, c'est en fait un biopic, le biopic d'une écrivaine moi, que je ne connaissais pas, Goliarda Sapienza, et qui a été redécouverte avec la publication posthume de son roman « L'art de la joie » et qui offre un vibrant portrait de femme. Et Mario Martone réussit quand même ses portraits. Je trouve que le casting est vraiment superbe. Belle photo également. Voilà. Même si le film, moi, je l'ai vu au Lido. Hein. Bon, voilà, je le rappelle. Donc, Fuori, si vous aimez Valeria Golino, les films italiens. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, quand même, il faut bien le reconnaître. Hein, mais c'est quand même un bon film. Et c'est édité par Le Pacte, en DVD seulement, d'ailleurs.
Il n'y a qu'une édition de DVD, oui.
Oui. Bon, enfin, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Voilà donc, mais alors finalement, j'ai parlé de beaucoup de films, mais pas trop dans le détail. Alors peut-être que, Laurent, toi, tu vas peut-être approfondir la question.
Possible. Alors, là, c'est sûr, bon, enfin, on va parler de nouveautés. Là, par contre, une trilogie pour des films relativement anciens, quand même, hein, parce que le premier date de 1922.
Ah oui, en effet.
Le deuxième de 1933,
ouais.
Et le troisième de 1960.
Ah, tu m'intrigues.
Ce sont des films, alors pour les deux premiers, allemands, pour le troisième, ce sont une coproduction franco-allemande. Les trois films sont réalisés, ce sont trois thrillers, je dirais, par un Allemand.
Ah, ne serait-ce point Fritz Lang?
Eh bien si. Et donc pour la trilogie du docteur Mabuse.
Ah ben oui.
Et donc dans un très beau packaging édité par l'éditeur Potemkin, il y avait que lui d'ailleurs pour signer cette édition là. Nous avons donc le premier volet, docteur Mabuse le joueur. Donc 1922, noir et blanc, l'histoire de ce docteur Mabuse qui fait d'énormes profits en bourse grâce au vol d'informations confidentielles. C'est un chef-d'œuvre en deux parties qui marque par la force de la réalisation, teintée d'expressionnisme et de sa vision critique de l'Allemagne. Et donc, ce sont bien sûr, je ne l'ai pas précisé, un coffret Blu-ray, et donc qui est accompagné d'un documentaire sur le film et son héros, avec le sujet où le compositeur explique son travail et le portrait du créateur du docteur Mabuse, Norbert Jacques, ici réuni en un seul module. Voilà. Inédit, eh bien, on a un retour sur le film par Bernard Eisenschitz, d'une trentaine de minutes, et donc avec une très très belle restauration à la clé, parce que on flirte avec la perfection, et ça c'est vraiment du travail d'orfèvre pour un film de 1922, je le rappelle quand même.
Ah mais ça c'est, en tout cas c'est une très bonne idée d'avoir réédité ce film.
Alors c'est le seul titre qui est disponible au passage à l'unité, c'est-à-dire qu'en fait pour avoir les autres titres il faudra absolument acheter le coffret. Autre titre, en 1933, là c'est le testament du docteur Mabuse. Et donc là, depuis l'asile où il a été, où il est interné, eh bien le docteur Mabuse parvient à soulever une nouvelle vague de crimes sur l'Allemagne. Et donc 10 ans après, eh bien Fritz Lang retrouve le machiavélique personnage qui fit donc sa gloire dans une suite où le bouleversant le dispute au cauchemardesque. C'est une réédition pour ce titre-là. Et donc, on a là encore un retour érudit et éclairant d'ailleurs sur la production du film, là encore par Bernard Eisenschitz. Voilà. Et donc, pour en terminer, donc toute la restauration est proche de l'excellence. Pour en terminer, eh bien, nous avons le diabolique docteur Mabuse, et donc, qui raconte l'histoire d'un commissaire alerté par un informateur médium qui enquête dans un hôtel où les crimes ont été commis. Et donc, c'est une interprétation solide, un mystère savamment entretenu et un dénouement des plus haletants. Mais on est loin, bien sûr, du génie de l'expressionniste de jadis. Donc voilà, là encore, c'est une réédition, mais ces trois titres sont dans un fabuleux coffret avec un super packaging. Et donc, ça vient de sortir. Donc, pour ceux qui voudraient se procurer, je dirais, c'est indispensable du cinéma de patrimoine.
C'est vraiment passionnant. Et puis, on aime beaucoup Fritz Lang, un réalisateur magnifique, adoré par la Nouvelle Vague également. Et qui a fait une belle carrière aussi américaine, hein, faut le rappeler, avant de revenir en Allemagne, justement, à la fin des années 50. Mais c'est vrai que ça sera une découverte aussi, Mabuse, pour beaucoup de gens, parce qu'on connaît de Metropolis, notamment de Fritz Lang. Mais voilà, mais écoute, je vais vite me procurer ce coffret, je vais carrément prendre le coffret.
Alors là, on va faire un bond en avant quand même, parce que on va aller en 1991, film américain, mais un film assez intéressant parce que c'est un excellent thriller qui fait d'ailleurs référence à des grands metteurs en scène du cinéma américain et britannique, Alfred Hitchcock et Brian De Palma. Et donc là, le film est signé par Wolfgang Petersen, où on retrouve Bob Hoskins, Greta Scacchi, Tom Béranger pour le film Châteaurode, où le titre français c'est Trouble. Ouais. Voilà, la musique est signée au passage Alan Silvestri.
Alan Silvestri, oui, je me souviens, avec un très beau thème assez efficace d'ailleurs.
Tout à fait. Et donc, c'est l'histoire d'un homme à la suite d'un grave accident de voiture qui se réveille amnésique et qui tente de recoller sa mémoire fragmentée. C'est un film intriguant à souhait, multipliant donc, les références au cinéma de suspense, de thriller, comme je le disais, De Palma, Hitchcock, et le film alterne avec brio interrogation, faux semblant, tension, suspense au cours d'un récit qui ne manque pas de retournement de situation. Donc c'est l'atelier d'image qui le propose à la vente. Alors c'est pas tout à fait sorti, il faudra attendre la fin de la semaine là, pour l'avoir dans les bacs. Ce qu'on peut regretter, c'est que l'édition qui est proposée, même si elle est d'excellente qualité, elle est un peu chiche. On aurait pour un film comme ça avoir une édition un petit peu plus luxueuse, mais bon, ça sera peut-être pour plus tard, peut-être oui. Pour la fin d'année.
En tout cas, c'est un film que j'avais loupé à l'époque de sa sortie et je vais rattraper mon retard. Il était temps.
Oui, parce que depuis 91.
Hein. Oui, tout à fait.
Allez, on poursuit le survol enfin des sorties. Alors, il y a deux films assez intéressants. Je crois que tu en as vu un déjà. Film italien de Paolo Sorrentino avec Tony Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque. Film italien de l'an dernier qui vient de sortir dans les bacs. C'est La Grazia. Qui raconte l'histoire d'un président de la République italienne au terme de son mandat qui hésite en raison de ses convictions religieuses à promulguer une loi sur l'euthanasie et à accorder la grâce à deux meurtriers. C'est toujours passionnant. En politique, la septième collaboration entre Paolo Sorrentino et son comédien fétiche qui brosse en fait le portrait introspectif et profondément humain d'un homme de pouvoir au crépuscule de son existence, écrasé par le poids de ses fonctions de dilemme moral, qui constitue, je dirais, l'un des principaux enjeux par la solitude, en dépit du soutien de sa fille et de confidents de longue date, donc la critique d'art haute en couleur au passage, et par l'inconsolable chagrin lié à la perte de son épouse. Voilà, donc c'est proposé par Pathé, film qui a eu un beau succès d'estime lors de sa sortie, et donc l'éditeur Pathé y croit quand même, hein, parce que on aurait hésité, mais là pour le coup il y a une édition Blu-ray, donc c'est plutôt une aubaine, je dirais. Et aussi une édition DVD pour ceux qui voudraient avoir une édition standard.
C'est un film de Sorrentino, donc on retrouve le côté, la dimension esthète du réalisateur, mais quand même avec un peu moins d'esbrouf quand même que dans ses précédents films. Donc il a cherché une certaine forme de sobriété, d'épure, on va dire, sur ce film-là, qui est un film que j'ai beaucoup aimé. Cela dit, j'avais quand même préféré Parthénope. Alors tout le monde était tombé à bras raccourcis sur Parthénope, tout le monde avait détesté ce film, alors que moi je trouve un des meilleurs films de Sorrentino et peut-être même un des meilleurs films du cinéma italien.
Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de sélection sans parler du cinéma asiatique.
Je m'inquiétais un petit peu, figure-toi, je me disais, tiens, mais quand va-t-il nous parler d'un film asiatique ?
Voilà, un film relativement récent, parce qu'il date de l'an dernier, film de Lee Sang-il avec Ryo Shuizawa, Rushe Yokohama et Soya Kurokawa. La musique est signée par Marie Kuara, film japonais qui s'intitule Kukuo.
Alors, je ne suis pas certain de l'avoir vu.
Alors, le titre français, il a été projeté quand même en salle à Limoges. Ah. Donc on peut s'en féliciter quand même. C'est Le Maître du Kabuki.
Ah oui.
On est dans les années 60 au Japon, et l'histoire d'un célèbre maître de Kabuki qui prend sous son aile le fils orphelin d'un yakuza pour lui enseigner parallèlement à son propre héritier mâle. eh bien, sa discipline ancestrale. Et donc, record d'ailleurs du plus gros box-office de tous les temps au Japon, hein, pour un film en prise de vue réelle, eh bien, cette épopée phénomène qui rassemble plusieurs générations d'acteurs reconnus et qui constitue d'ailleurs une envoûtante fresque autour de la rivalité et de la quête de soi à travers l'art séculaire, eh bien, le réalisateur manie la technique de l'ellipse avec une grande efficacité pour faire avancer eh bien, son récit. Et on doit donc cette sortie à l'éditeur Pyramide. Là encore, chance, eh bien, nous avons une édition Blu-ray ainsi qu'une édition DVD. C'est déjà paru, c'est bien sûr chez tous les bons disquaires et on va s'empresser d'aller se procurer cette édition-là.
Oui, certainement. Oui. C'est un film qui est un film fleuve, hein, je ne sais pas si tu l'as dit, il dure 3 heures, je crois.
J'ai pas parlé de la durée. Oui. On flirte avec les 3 heures.
Oui. Oui, mais voilà. Mais de toute façon, c'est un film passionnant et qui a été exploité de façon peut-être un peu trop confidentielle, hein, parce que le film méritait d'être un petit peu plus exposé, je pense.
Je crois d'ailleurs que ces deux films ont été. Il y a un autre film qui a été un petit peu passé un petit peu inaperçu, qui est aussi un grand film. Alors lui, je crois, me semble-t-il. D'après ce que j'ai pu voir à droite à gauche, il n'y a pas d'annonce haute définition, il n'y a qu'une édition DVD pour en fait le studio photo de Nankin qui est sorti quelques temps après ce Maître du Kabuki, qui est aussi un très grand film asiatique que je vous conseille. Si vous le trouvez dès sa sortie, il faut vraiment vous le procurer, parce que là aussi c'est une très très belle œuvre. Alors on fait un pas en arrière, et là pour le coup un film de 1950, mais alors un grand classique. Alors il y a eu des éditions déjà Blu-ray qui ont été édité, mais là pour une première, c'est l'édition 4K qui n'avait pas encore fait son apparition, et on la doit à l'éditeur Factories Film pour un grand classique du cinéma américain avec Nigel Patrick. La musique est signée Alan Rostorn. Allez, on y retrouve.
J'essaie de trouver, tu vois, j'écoute tes indices.
On y retrouve deux grands acteurs mythiques. Alors, on va peut-être commencer par l'acteur. C'est James Mason.
Ouais. Ils sont pour l'instant.
Le réalisateur, c'est Albert Lewin.
Ah, ça y est, je l'ai.
Et il ne manque plus que l'actrice.
Avec Gardner.
Voilà. Pour le film Pandora, qui a bénéficié d'une très grande restauration 4K vraiment de belles volées, qui raconte l'histoire de ceux qui connaissent pas le pitch de ce film. C'est l'histoire d'une femme fatale qui tombe sous le charme du Hollandais volant, donc un personnage de légende, victime d'une malédiction. C'est un film visuellement somptueux. Illuminé par la grâce d'une Ava Gardner plus rayonnante que jamais, et donc cette passion tragique teintée de fantastique qui exerce un charme intemporel. Vous pouvez vous le procurer parce que c'est déjà disponible.
Oui, le film qui était déjà sorti dans une belle édition chez Carlotta d'ailleurs, avec un livre très informatif.
C'était en 2021, ouais. Mais il n'y avait pas eu d'édition 4K. Et là, pour le coup,
C'est tentant, bien sûr.
La chose est réparée.
Ouais.
Alors, on peut en terminer peut-être avec un autre film. Alors, incontournable, je dirais pas que c'est incontournable, mais en tout cas, un film qui a eu un grand succès. Nous, dans Cinéscopie, on a été un petit peu plus timoré, en tout cas, un peu plus hésitant sur vraiment le contenu historique de ce film, et une sorte de remake, je dirais. Le casting aussi était un petit peu hasardeux, je dirais. Et donc, le film a été réalisé par James Vanderbilt, film de l'an dernier, coproduction franco-hongroise, pour un film déconseillé au moins de 12 ans. On y retrouve Michael Shannon, Rami Malek, pardon, et le dernier,
Russell Crowe.
Russell Crowe, ouais. Pour en fait cette nouvelle version de, si je puis dire, de Nuremberg, qui raconte en fait la rencontre entre Hermann Göring et le psychiatre de l'armée américaine chargé d'évaluer la santé mentale des dignitaires nazis jugés au procès de Nuremberg du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Le film est, je dirais, un petit peu quand même stéréotypé, peut surjouer aussi, assez démonstratif. Je dirais que pour ma part, il collectionne un certain nombre de maladresses, voilà. Ce qui n'est pas le cas de l'original. Alors, le film a eu, en tout cas, un très bel accueil au cinéma, peut-être, oui, dans le contexte, voilà,
du moment. Il a bien marché, oui.
Et du coup, l'éditeur, qui n'est autre que Noor Film, qui le propose en version distincte 4K, Blu-ray, DVD. Il n'y a pas d'édition combo et il n'y a pas d'édition steelbook. Parce que tout simplement, je crois qu'à un moment donné, il y avait vraiment un enthousiasme de la part de l'éditeur à sortir un certain nombre d'éditions. Et puis au dernier moment, je crois que voilà, il s'est rétracté, ce qui fait qu'en fait, on a des éditions un petit peu plus classiques. Et je crois que voilà, s'il y a eu un engouement au cinéma, il y a peut-être un peu moins d'engouement, en tout cas en support physique, ce qui est un petit peu compréhensible d'ailleurs, voilà, au passage. Donc voilà, pour en tout cas ceux qui n'ont pas vu le film et qui souhaitent le découvrir, eh bien c'est déjà sorti.
Eh bien, merci Laurent pour cette sélection très éclectique. Et je rajouterai très brièvement que je vous parlais tout à l'heure de Dario Argento. La revue publiée par Manouiz, la revue dérivée classique, nous propose un dossier consacré à Dario Argento, à l'occasion notamment de la sortie justement du Blu-ray ultra haute définition du film Ténèbres à la fin du mois de juin. Donc, dossier Argento. Il y a également un dossier consacré au giallo espagnol, puisque Artus vient de sortir deux giallos, justement, ibériques, à savoir Les yeux bleus de la poupée cassée et Une libellule pour chaque mort.
Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais on en parlera peut-être la semaine prochaine,
effectivement. En tout cas, la revue classique de Manouiz, elle est vraiment passionnante, et il y a en plus une interview avec Luc Merinda, qui a fait les beaux jours du Polizio Tesco en Italie, avant de jouer dans Château-Vallon, on se souvient bien sûr de Luc Merinda, et de Chantal Nobel dans ce Château-Vallon. Et puis également, un focus sur deux films de William Friedkin, Traqué, qui viennent sortir justement en vidéo, et puis Police Fédérale Los Angeles, ainsi qu'un dossier sur Le Vaurien. Le Vaurien, là aussi, c'est un coffret Blu-ray de films japonais. Voilà. Eh bien, il est l'heure maintenant bien de faire une petite pause musicale, et je me tourne vers Laurent. Que nous as-tu concocté à ce mi-temps d'émission?
Alors, c'est une sorte d'hommage, je dirais, parce que la musique, tout le monde, une grande partie des fans et des amateurs de musique de film la connaissent. Peut-être qu'on pourrait faire d'ailleurs un quiz.
Oui.
On va pas donner le titre.
Allez. Ah non, on va pas donner le titre, vous allez essayer de jouer avec nous.
Voilà. Alors, c'est une version qui est interprétée par un grand directeur d'orchestre, c'est Gustavo Dudamel, qui dirige le Los Angeles Philharmonic. Et on va écouter une suite d'une dizaine de minutes concernant en fait ce film. Voilà, un grand classique du cinéma fantastique. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire.
Oui, non, parce que je pense que vous allez tous reconnaître. Voilà. C'est quand même un chef-d'œuvre aussi de la musique et du cinéma.
Oui. Et donc, si trouvez la réponse, eh bien, vous avez qu'à peut-être nous passer un petit coup de fil.
Pourquoi pas ? Voilà, peut-être faut-il rappeler d'ailleurs notre numéro de téléphone. On le cherche, on ne le trouve pas d'ailleurs. Non, bon. Mais cela dit, il n'y a rien à gagner que notre estime, évidemment.
Oui,
hein, parce que bon, voilà. Non, c'est vrai que je regarde. Oui, c'est pas des... Bon, mais écoute, il va falloir qu'on fasse des recherches. Hein. Il n'y a pas d'autre solution.
Oui, oui. On va aller à la recherche.
Comme ça, là, on rejouera ensemble la prochaine fois.
Allez, tout de suite, donc, cette musique-là. Et puis, nous, on se retrouve juste après bien, pour la sélection des films de la semaine. Les films de la semaine, ce soir.
Les goûteuses d'Hitler de Silvio Soldini, À bras-le-corps de Marie-Elsa Sgualdo et Colonie de Yon Sang-ho. Et bien, nous allons commencer par Les goûteuses d'Hitler de Silvio Soldini, un film assez passionnant qui évoque finalement un fait assez peu connu, et voilà l'histoire de ces femmes qui devaient manger pour s'assurer que la nourriture destinée au Führer n'était pas empoisonnée. Un film de Silvio Soldini avec Elisa Schlott, Max Riemelt et Alma Hassoun. Un film que tu as vu, Laurent?
Oui, je l'ai vu. Ça se passe donc bien sûr durant la Seconde Guerre mondiale. Rosa est recrutée comme goûteuse pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. Donc, trois fois par jour, la jeune femme et d'autres camarades doivent manger afin de s'assurer que la nourriture n'est pas empoisonnée. Et donc, chaque bouchée sera peut-être d'ailleurs la dernière. Et donc, en 2012, donc à l'âge de 95 ans, eh bien, je recherche mes petites notes, hein, bien sûr. Eh bien, il y a une femme nommée Margot Volk, qui a révélé qu'elle avait été l'une des jeunes Allemandes forcées de goûter les repas d'Hitler. Et donc, personne n'avait jamais su que ces goûteuses existaient, et donc Margot Volk fut la seule d'entre elles à survivre à la fin de la guerre, et donc son histoire a inspiré à la fois le roman de Rosella Postorino et aussi ce long métrage. Et donc ce film est doublement intéressant parce que d'une part ça relate un fait historique qui a été peu médiatisé et sur lequel je n'étais pas vraiment au courant aussi. Donc il y a quand même un aspect assez culturel. Et aussi, ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, ça montre un petit peu, la condition de la femme sous la dictature allemande. Parce qu'en fait, toutes ces femmes étaient allemandes. Et donc, du coup, c'est cette condition qui était, très négative, la femme objet, je dirais, qui servait de testeuse, ni plus ni moins, parce qu'il y avait assez peu de considération pour ces femmes-là. On le voit à chaque repas où, en fait, tout ce qui intéresse, les forces nazies, c'est ni plus ni moins que la sécurité en fait du Führer, et puis ce côté persécution qui en fait a accompagné chaque repas, et donc toujours cette rigueur à véritablement prendre toutes les précautions pour éviter que donc le Führer ne soit empoisonné lors de la préparation de ces différents repas. Et je dirais que à travers cette histoire-là, il y a aussi une histoire charnelle, hein, entre un dignitaire nazi et puis une des femmes. Et donc on voit bien que là aussi il y a cet intérêt à profiter, je dirais, d'une relation, mais sans véritablement s'engager dans quelque chose de tout à fait sérieux, ni plus ni moins que là encore une démonstration de la femme objet, donc lors de ce règne de ces dignitaires nazis. Donc le film plusieurs de ces éclairages, et reste vraiment très intéressant de Silvio Soldini. La seule chose, ce qui peut être reproché, c'est qu'en fait le film était quand même, en termes de mise en scène, un petit peu terne. Je dirais que c'est assez tristouné. il a du mal à relancer en fait l'intérêt du suspense. Et donc pour le coup, ce côté un petit peu, je dirais, contemplatif et pas forcément ne sert pas réellement le film. Mais je dirais la qualité du sujet et de l'écriture fait que il y a vraiment beaucoup d'intérêt à suivre cette histoire parce que tout à fait originale et en plus véridique. Donc vraiment, ça vaut le détour rien que pour la dimension culturelle.
Eh bien, cher Laurent. Non, voilà, c'est ça. Je pense que cette dimension culturelle qui mérite le déplacement, parce que c'est vrai que c'est finalement c'est une histoire assez peu connue. Et voilà. Mais écoute, on ira voir ce film. Alors, est-ce qu'il reste encore en salle?
Je vous invite quand même à vous précipiter quand même pour aller le voir, parce que bon, ça fait une quinzaine de jours au moins qu'il est à l'affiche. Et il y a de grandes chances qu'il ne fasse pas de vieux os. Ouais.
Très bien. Alors maintenant, on va changer de registre avec un film, pour le coup, un peu plus énervé. Il s'agit de Colony, film coréen de Yeon Sang-ho.
On peut le dire.
Ouais, c'est... avec dans les rôles principaux Jun Ji-hyun, Go Soo, Koo Kyo-wan, pas facile à prononcer les noms coréens. Et c'est un film qui d'ailleurs a été présenté au Festival de Cannes en séance spéciale, la fameuse séance de minuit. Alors, Colony, c'est une nouvelle incursion de son réalisateur dans le film de zombies, parce qu'en fait, il nous avait déjà donné Le Dernier Train pour Busan, rappelez-vous, ainsi qu'une suite Peninsula. Donc, on se demandait si Yang Seo allait se renouveler, finalement, Yang Sang-ho, allait se renouveler avec ce film. C'est l'histoire d'une jeune femme, professeure spécialisée en biologie, elle s'appelle Si Jong, et elle répond à l'invitation de son ex-mari qui aimerait la présenter au patron d'un des laboratoires d'expérimentation les plus influents au monde. Dans une tour de verre, le dit patron donne une conférence sur ses recherches basées sur la communication et le mode de survie des blobs, et les bénéfices qui pourraient en être tirés sur la réparation du système nerveux et des cellules humaines. Mais un acte terroriste mené par un ancien employé revanchard provoque bientôt la propagation d'un virus ravageur qui relie ses hôtes à un mystérieux esprit de ruche. Voilà, la police a bloqué toutes les issues de l'immeuble, et donc Si Jong et un groupe de survivants vont tenter de gagner le dernier étage de la tour, de préférence après avoir collecté l'antidote qui est conservé au cœur de l'immeuble. Voilà, on ne va pas en dire plus. Donc en fait, voilà un peu le pitch. C'est un film finalement, c'est une sorte de huis clos, parce que tout se passe dans une tour. D'ailleurs, on peut... les comparaisons, c'est toujours un petit peu difficile, mais on peut penser à Piège de cristal avec Bruce Willis qui voilà piégé dans cette structure. Et là, c'est pareil. On est dans le. On peut penser aussi à The Raid, où le lieu principal de l'action, c'est une tour. Voilà, ça peut être la tour infernale aussi si vous voulez. Donc le pitch. Et évidemment, il y a tous les infectés, toutes ces personnes contaminées qui sont en quelque sorte zombifiées, mais alors qui se c'est pas les zombies de George Romero là, parce que les zombies de George Romero ils se meuvent plutôt lentement, et puis surtout ils sont pas totalement interconnectés. Alors que là c'est toute la différence, c'est-à-dire qu'ils sont reliés entre eux. Ça c'est assez intéressant.
Oui, et en fait ce qui est quand même aussi intéressant, c'est tout l'originalité aussi du film, c'est qu'en fait il y a une sorte d'avancer, je dirais, dans le registre du cinéma de zombies, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, en fait, de l'avancée de l'histoire, eh bien, ils progressent.
Ils apprennent.
Voilà, il y a un apprentissage qui se fait et qui devient de plus en plus affiné pour se rapprocher au mieux, en fait, de l'être humain. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau. Même si c'est vrai qu'au départ, on pense quand même à la structure de George Romero.
Oui, ben je pense. Enfin, je pense
en
que
en tout cas dans le film Zombie, voilà, qui. Ouais. Qui
mais Yann Sang-ho s'en cache pas d'ailleurs, hein, parce que. Bon, en fait, comme George Romero, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'il appuie quand même son film sur un propos. C'est pas gratuit. Il y avait toujours une satire sociale chez Romero, oui. Et donc on retrouve là aussi et un discours aussi sur la science, sur l'IA justement. L'IA générative, il y a des choses assez intéressantes. On va pas spoiler le film, mais je pense que c'est intéressant. Alors cela dit, quand même, cette histoire d'interconnexion, j'ai pas trouvé ça si original que ça, parce que il y a quand même un classique du cinéma qui lui proposait d'une certaine manière, c'est l'invasion des profanateurs de sépultures. Alors, de Don Siegel, et ensuite dans la version de Philip Kaufman. Il y a quand même, entre ces organismes extraterrestres, il y a quand même des liens. Et on retrouve même le côté moisissure organique qui envahit le film de Yang Sang-ho aussi. Je trouve qu'il y a. Tu vois, il y a un petit peu cette. Je me demande s'il n'y a pas un petit démarquage là.
Oui, mais bon, dans le film de l'invasion des profanateurs, il y a une sorte de recherche de mimétisme, en fait, des profanateurs, des extraterrestres. Il y a une forme d'intelligence qui naît.
Mais il y a quand même, effectivement, il y a une évolution qui n'existe pas dans l'invasion, puisqu'en fait, les extraterrestres sont déjà à l'image des humains. Mais quand même, cette histoire de mimétisme, c'est intéressant aussi dans le film coréen dont on parle, Colonie, puisque effectivement, ils essaient de reproduire les attitudes humaines, ce qui vaut d'ailleurs des tableaux assez dantesques, sans en dire davantage. Bon, non, mais c'est quand même le film assez passionnant sur son propos, et puis surtout, alors là, d'un point de vue purement cinéma, je trouve que quand même c'est un film très efficace, hein, la mise en scène, la photographie,
une grande réussite.
Technique,
on touche la perfection.
Et les déplacements des infectés, je n'ose pas dire zombies, parce que enfin, mais en fait, c'est vraiment très très bien chorégraphié. Je pense qu'ils ont dû en baver sur le tournage quand même, parce que pour être raccord à chaque fois, parce qu'il y a quand même des dizaines de figurants, et il faut que c'est comme une troupe de danseurs, il faut qu'ils aient un peu la même gestuelle au même moment. Donc, voilà. Alors c'est ça, c'est intéressant parce que. Si tu veux, bon, dans ce type de film, quand même, c'est difficile. On marche sur le fil du rasoir parce que ça peut être totalement ridicule. Si c'est pas bien fait, je pense qu'on rigole. Là, quand même, c'est plutôt réussi. Il y a du rythme. La mise en scène alterne des moments, avec des mouvements d'appareil étudiés, ou d'autres moments, c'est plutôt caméra à l'épaule pour donner du rythme. Tout ça, c'est bien fait, franchement. Le casting est excellent. Et la scène finale est assez surprenante. Alors, voilà, tout ça fait que on a plutôt un très bon film de genre. Hein. Je pense que là, on peut y aller. Ça m'a fait un petit peu penser aussi ce film, d'une certaine manière, à un autre film asiatique dont je ne sais plus la nationalité, qui s'appelle Sadness. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Où justement il y a des contaminés qui deviennent justement très 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 énervés. Hein, voilà. Donc voilà. En tout cas, Colonie, ouais, c'est un très bon film. Alors. Qui n'entretient pas de rapport direct avec Le Dernier Train pour Busan. Mais ça pourrait être finalement comme un préquel, à la limite.
Oui, tout à fait. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu gêné, mais bon, ça, c'est le propre du cinéma asiatique, par moment, ce petit côté, en tout cas en termes d'interprétation des acteurs, par moment, c'est pas tout le temps, mais ce petit jeu un petit peu théâtral où il y a les émotions qui sont un petit peu surjouées, qui sont typiques, je dirais, de ces films-là. Mais pour le coup, pour le reste, ça passe très très haut la main. En tout cas, une très grande surprise pour ce film.
Voilà. Puis film, bon, assez sanglant, mais pas complaisant, et ça c'est bien, parce que finalement, il cherche pas forcément à faire du gore. Il y a du gore, mais on est vraiment... au plus près des personnages et on a envie qu'ils s'en sortent, tout ça. Donc il y a un bon suspense, ça fonctionne plutôt bien. Et on peut le voir à Limoges en version française, mais aussi en VO.
Sadness, en fait, parce qu'on cherchait l'origine. Mmh. Ouais. En tout cas, c'est une œuvre horrifique taïwanaise.
Ah, c'est taïwanais.
Ouais. Mais ça a été réalisé par un Canadien, Robert Jabaz.
Voilà, d'accord. Merci pour ces précisions, Laurent. Alors, vous avez compris que vous devez aller voir ce Colony, quand même. C'est tout à fait intéressant. Et on va terminer avec Abra le corps, film français, je crois, me semble-t-il, hein, avec une belle actrice, une révélation, je pense. Hein, tu vas nous en parler.
Oui, alors le film n'est pas français, mais il est suisse.
Il est suisse.
Voilà. Par Marie-Elsa Sgaldo. Qui raconte en fait le sort d'une adolescente qui est tombée enceinte des suites en fait d'un viol. Et donc c'est un premier film sur fond de Seconde Guerre mondiale, d'une complexité et d'une délicatesse assez remarquable. Et prendre un problème à bras-le-corps, c'est s'en occuper sérieusement, s'y prendre de près. Et donc l'expression renvoie à un double effort. Elle sous-entend d'ailleurs une implication physique aussi bien qu'intellectuelle et désigne au fond une collision entre le matériel et l'immatériel. Et donc dans son premier long métrage, c'est la rencontre des dogmes socio-religieux et du corps féminin que Marie-Elsa Sgaldo a choisi de raconter. C'est ça qu'elle empoigne. On est en 1943, Emma, 15 ans, est sur le point de recevoir le prix de vertu de son village du Jura suisse, qui pourrait l'aider à financer ses études d'infirmière. Et c'était avant son viol par un journaliste de passage, avant la grossesse qui en découle, et avant que son destin ne lui glisse entre les doigts. Et la cinéaste signe un film en forme d'échappée belle. Les décors disent d'abord la sobriété protestante, feutrée, taciturne, il se dessert à mesure qu'Emma, elle, s'affranchit. Et donc la mise en scène suit ce mouvement, d'abord contenu, étouffé, et elle s'ouvre avec son héroïne. Celle-ci prend chair sous nos yeux grâce à Lila Guéno, déjà perçue d'ailleurs dans It's the Night en 2024, et La Femme 2 en 2026, qui signe une performance assez extraordinaire dans la retenue en fait de son personnage. Et donc il faut la voir les yeux baissés, encaissés, puis plan après plan relever la tête. Et donc autour d'elle, Sgaldo compose une galerie d'hommes auxquels elle offre bien sûr le cadeau rare de la nuance. J'adore cet acteur. Parce que souvent, il n'a pas véritablement de rôles principaux, mais à chaque fois, il apporte véritablement une ossature à son personnage. Et donc, c'est Grégoire Collin qui est en fait le rôle. Il joue le rôle d'un pasteur noyé dans l'alcool, la culpabilité de la neutralité helvétique. Et donc, Cyril Metzger en agresseur, qui est fascinant de désinvolture, Aurélien Patouillard et Thomas Doré qui complètent un tableau où aucun personnage n'est réduit à sa fonction. Mais c'est bien quand même le personnage féminin joué par Emma et elle seule qui tient ce film debout. Quand elle relève enfin les yeux à la fin, ce n'est plus le prix de vertu qu'elle regarde, mais c'est des spectateurs. Et on est, je dirais, pas magnétisé, mais on est emporté par son personnage, et en tout cas par la détermination de se battre et de relever la tête dans dans une époque et un univers qui était majoritairement masculin. Et donc, et où la femme subissait le joug, en fait, patriarcal.
Le patriarcat, oui.
Et donc, du coup, c'est encore une belle démonstration que ce film, une belle réussite, en tout cas. Moi, j'ai adoré le film. Alors, en plus, c'est vrai que l'actrice est vraiment hypnotisante. Alors, de beauté, certes, mais aussi, c'est qu'en fait, elle a cette capacité à faire transparaître des sentiments, des émotions, une détermination sans véritablement exprimer de sentiments à travers son visage. C'est excessivement difficile et complexe. Et donc franchement, c'est une belle découverte que ce film à bras le corps.
Merci Laurent. Eh bien, vous l'avez compris, il faut aller voir À bras le corps, et dans un genre totalement différent, Colonie, le film de zombies. On en a vu tout plein de films, bien sûr, on vous en parlera la semaine prochaine. Vous ne pouvez pas vous parler de ce soir.
C'est pas possible.
Entre le dernier Star Wars, le Mandalorian, la bataille de Gaulle, The Passenger.
Je pense qu'on aurait pu faire une nocturne.
Oui. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de faire une petite virgule musicale?
Allez, une petite virgule musicale pour un film. Alors, pas très connu, hein, mais on vous diffuse aussi des musiques de films, eh bien, un peu moins célèbres, mais qui ont l'audace d'avoir une qualité musicale assez extraordinaire. Et donc, là, pour le coup, en fait, on va vous parler d'un film de 1993, pour vous dire. Et donc, le film rassemble une distribution comme Caroline Thompson, Andrew Knott, John Lynch, Jerzy Zielinski, Laura Crossley, Irène Jacob.
Il commence par la fin de la liste.
Maggie Smith et Kate Maberley pour un film de cinéma fantasy, si je puis dire. Ça s'appelle Le Jardin Secret. Secret
oui.
Garden.
Ouais.
Et donc, une musique, comme à l'accoutumée chez ce compositeur, assez, je dirais, cristalline. Et là, on va vous proposer un extrait qui, en fait, est chanté une voix extraordinaire. Je crois que ça fait partie des plus belles partitions de ce compositeur, qui n'est autre que Zbigniew Spreissner, qui est en fait un compositeur polonais. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Et donc, pour le coup, on va écouter donc un des thèmes de ce Jardin Secret. Ça dure à peu près 2 petites minutes, ça, c'est assez court, mais voilà, la longueur n'est pas un critère de qualité, ça peut être très dense. Voilà. On écoute cela, et on se retrouve juste après pour vous annoncer les sorties de la semaine, qu'est-ce qu'on nous pourrons voir sur nos écrans à partir de mercredi.
Et bien maintenant, il est temps de vous parler des films qui vont sortir sur nos écrans ce mercredi. Alors déjà, on sait qu'il y a un blockbuster. C'est le nouveau film de Steven Spielberg, Disclosure D, avec Emily Blunt, voilà, une distribution. Ouais, où Spielberg revient finalement sur sa passion sur les ovnis, les extraterrestres. Donc on attend ce film avec impatience.
Oui, alors là c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire d'impasse hein, de vous annoncer ce film-là. alors ensuite, nous avons un autre film dramatique, Fils de personne, un film réalisé par Safi Nebou avec Romain Duris. Qui s'annonce assez fort, il faut bien le dire. En tout cas, la bande-annonce est assez alléchante. Ouais. Peut-être qu'il va falloir préparer ses mouchoirs.
Oui.
mais en tout cas, voilà, ça peut être une belle réussite. Il ne va pas y avoir... En tout cas, sur les sorties sur Limoges, il ne va pas y avoir énormément de sorties ce mercredi. Nous pourrons voir quand même un film de Laurent Slama, c'est Second Life, qui raconte l'histoire du jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et l'histoire d'Elisabeth qui jongle entre la gestion de location de courte durée et sa dépression, sa rencontre avec Elijah et un Californien insouciant qui la déstabilise. Voilà. Donc ce film, là encore, dramatique. On pourra voir aussi le nouveau film de Quentin Dupieux, Le Vertige, avec Alain Chabat, Jonathan Cohen, Anaïs de Moutier. Vous avez peut-être déjà vu la bande-annonce hein, qui s'annonce assez croustillante, je dirais, et iconoclaste. On pourra aussi voir The Christophers, dernier film de Steven Soderbergh, avec Ian McKellen, qui raconte l'histoire de Julian Sklar, ancienne figure majeure du pop art londonien, devenu misanthrope, qui n'a plus rien peint depuis des décennies. Donc ses enfants, avides d'héritage, qui engagent Lone, restauratrice et ex-faussaire, pour se faire passer pour son assistante. Et donc sa mission, finir en secret une série de 8 toiles inachevées, les Christophers, et en tirer une fortune. On pourra aussi voir peut-être un film assez intéressant là encore de Laura Samani, c'est Une année italienne, qui raconte l'histoire de Fred en septembre 2007, qui est une jeune Suédoise de 17 ans qui emménage à Trieste et qui commence une année de terminale au lycée technique de la ville. Et seule fille de la classe, elle se retrouve au centre de l'attention, en particulier de celle d'un trio inséparable de garçons. Voilà. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sorties?
Moi, j'attends The Furious, le film de Kenji Taniguchi.
Je sais bien.
Parce qu'on voit la bande-annonce actuellement dans les salles.
Donc il va y avoir là encore un documentaire. C'est pas celui que tu attends, mais un documentaire de Jérémy Renier, D'un monde à l'autre. Qui est un documentaire intime, un voyage humain et sensoriel à travers le deuil et l'amitié. Voilà. Est-ce que c'est tout ? Eh bien non, il y a une autre sortie.
Rassure-moi.
Un film de Kenji Taniguchi, The Furious, qui sort mercredi et que nous pourrons voir, qui raconte l'histoire d'un d'un réseau, enfin de Wang Wei, qui après l'enlèvement de sa fille par un réseau criminel et face à l'inaction de la police, eh bien, se lance dans une traque implacable pour la retrouver. Et donc son seul allié, Nevin, est un journaliste tenace dont la femme a mystérieusement disparu. Et donc unis par un même désir de vengeance, eh bien, ces deux hommes que tout oppose, eh bien, affrontent les ravisseurs dans un face-à-face explosif mêlant arts martiaux, et justice sans merci.
Oui, ça s'annonce, comme l'indique son titre, assez furieux. Hein, donc,
oui, oui.
Moi, j'ai beaucoup d'attentes sur ce film. Je vous en parle lundi prochain.
Eh bien voilà, c'en est tout. Oui. En tout cas, sur Limoges, ce sont, je dirais, les seules sorties. On est loin de la douzaine, hein, mais... Voilà, ça va peut-être s'accélérer. Hein,
oui, voilà, bien sûr.
Il va y avoir quelques blockbusters américains qui vont débarquer. C'est la saison, hein, sur la deuxième quinzaine de juin.
Merci Laurent. Eh bien, on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de la station. Et une très bonne semaine dans les salles. Et j'espère que voilà, vous allez en profiter. J'espère aussi vous retrouver lundi prochain à partir de 20h45. Avec Laurent, et je te souhaite une bonne semaine, Laurent.
Oui,
également.
Oui, le rendez-vous est pris. Nous serons aux manettes eh bien, la semaine prochaine, lundi, à partir de 20h30, 20h45.
Parfait. Eh bien, on vous dit eh bien, ciao.
Oui, bonne semaine.
Bonne soirée,
allez,
bonne semaine.
Allez au cinéma, allez fréquenter ces salles obscures. Vous n'êtes pas si nombreux, d'ailleurs. On a fait les pointages la semaine dernière.
Ah oui.
Et il faut vraiment vous déplacer.
Ouais. On y sera encore cette semaine. On va vérifier tout ça.
Ouais. Allez, on contrôle tout ça et on vous donne rendez-vous lundi prochain. Bye bye.
Ciao.